Donc, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 1, versets 3 à 31. Genèse 1, versets 3 à 31. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la lumière produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'image, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. On va prier pour demander la bénédiction du Seigneur. Seigneur, nous venons à tes pieds. Nous voulons, Seigneur, adorer ta glorieuse et sainte personne pour les innombrables grâces que tu nous as faites, plus particulièrement pour celle de ton glorieux salut. Seigneur, nous savons que cette semaine, malgré toutes nos bonnes intentions, nous sommes remplis de misère et de faiblesse. Et Seigneur, nous avons péché contre toi. Et Seigneur, nous ne voulons pas entendre ta parole dans un état de péché. Seigneur, nous désirons confesser nos péchés, de quelque nature qu'ils soient, qu'ils aient été faits en pensée, qu'ils aient été faits, Seigneur, en parole, en action, en omission ou en faute, Seigneur, dont nous ne sommes même pas conscients. Seigneur, nous sommes pauvres et misérables, et Seigneur, nous implorons ton pardon, de manière à ce que ta parole, ce matin, fasse effet dans nos cœurs, qu'elle produise du fruit, du changement, de la transformation, qu'elle nous rende davantage semblables à Christ, Seigneur, pour ta plus grande gloire. C'est ce qu'on te demande, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors, on va continuer la leçon de la dernière fois, la création, en 6 jours de 24 heures. On parlait ce matin en bas avec Rénal, peut-être des fois des difficultés de préparer un message ayant la bonne longueur. Ordinairement, je dirais que 98% du temps, j'y arrive, mais il arrive que parfois, on veut peut-être trop en mettre dans la même leçon et qu'on est obligé de le faire en deux fois, ce qui nous oblige à faire une révision pour qu'on garde un peu le fil conducteur de tout ça. Alors, ce qu'on va faire, là, vu que c'est la deuxième leçon de la création en 6 jours de 24 heures. Pourquoi c'est important de bien partir? J'ai lu très souvent ça dans des livres de théologie concernant l'importance du livre de la Genèse, et plus particulièrement l'importance des trois premiers chapitres. La création, ensuite la chute, Adam, Ève et tout cela. Parce que les Écritures nous disent que c'est par la foi qu'on reconnaît que la création a été créée à partir du néant. Ce n'est pas par des démonstrations scientifiques, c'est par la foi. On croit ce que Dieu dit parce que Dieu, nous ayant régénérés, nous ayant donné son Saint-Esprit pour évaluer les choses, maintenant on a l'outil nécessaire pour comprendre et on se doit de donner foi à la parole. Et le chapitre 1 de la Genèse, c'est sûr que ce n'est pas le seul chapitre qui est disputé dans la Bible, mais ce serait certainement un gros terrain de bataille théologique, parce qu'il y en a qui cherchent à introduire, dès le premier chapitre de la Genèse, des doutes ou des fausses doctrines qui semblent innocentes à première vue, mais qui ont des conséquences très importantes sur le long terme. La plupart des commentateurs qui sont conservateurs, qu'on utilise pour Genèse 1, nous disent tout ce que c'est comme un solage. Si tu veux te construire une maison, un peu comme le Seigneur dit dans Matthieu, si tu construis ça sur le sable, quand les pluies vont venir et les vents vont arriver, tout va s'écrouler. C'est la même chose pour la foi, nos doctrines, nos croyances. Si dès le premier chapitre de la Genèse, on se laisse emporter par le doute et par des fausses doctrines, on risque que la foi va s'écrouler sur le long terme. Alors, pourquoi on se doit de prendre Dieu au mot? Moi, je me souviens, les premières années, j'étais chrétien. À un moment donné, je suis tombé sur un livre. C'était par l'auteur Arthur Pink. Et il parlait des Écritures. Et à un moment donné, il a dit une phrase qui m'a frappé comme s'il m'avait donné un coup de masse en plein front. Il dit, puis ça c'est biblique, il prenait énormément de versets pour le développer, « Toute écriture est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu, et est utile pour instruire, corriger, etc. » Mais ce qu'il disait, la phrase qui m'a plus frappé, c'est « Chaque mot des Écritures, si on croit 2 Timothée 3, 16 et 17, chaque mot, à partir du premier mot de la Genèse, tous les mots qui sont dans les Écritures, il y en a beaucoup de mots dans les Écritures, l'ordre dans lequel sont placés, tout est soufflé de Dieu. » Alors, si dès le premier chapitre de la Genèse, on n'est pas capable de croire ce que Dieu dit, on va avoir bien la misère à bien des passages de beaucoup d'endroits des Écritures. Alors, si on part solide, on risque de rester solide tout le long. Alors, une des premières choses qu'on avait vues dans la première leçon du livre de la Genèse, c'était le principe de la création qu'on appelle en théologie « ex nihilo », c'est que Dieu a créé l'ensemble de tout ce qu'on a vu, l'univers, la terre, les êtres humains, tout l'univers, tout ce qui est vivant. « Ex nihilo », ça veut dire « à partir de rien ». La doctrine, l'enseignement de ce qu'on essaye à vouloir rentrer l'évolution aujourd'hui, pour eux, c'est pas la création d'un ex nihilo, c'est la matière qui s'est simplement réorganisée en se complexifiant de plus en plus. Alors, il faut vraiment donner foi à ce que Dieu nous dit. Alors, la création d'un ex nihilo, ça c'est le Genèse 1:1. Premier verset des Écritures déjà nous annonce des choses importantes. Premièrement, que ça défait l'athéisme, ça défait le matérialisme, ça défait le polythéisme, le fait qu'il y ait plusieurs personnes annoncent qu'il y a plusieurs dieux. Les Écritures nous annoncent clairement, à nous chrétiens, qu'il n'y a de salut en aucun autre sous le ciel qu'en Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas dire « toutes les religions mènent à Dieu ». Parce que c'est pas ça que les Écritures nous disent, et nous, notre foi, elle est placée dans les Saintes Écritures. Alors, on ne peut pas croire qu'il y a plusieurs dieux. Il y a seulement un Dieu, et c'est le Dieu des Écritures. Alors, l'évolution, le panthéisme, ça c'est une idée qui est complètement répandue de nos jours. Tout le monde croit que tout est Dieu, la matière est Dieu, la nature est Dieu. Et ils vont même plus loin et disent « Je suis Dieu ». Voyez-vous, l'être humain peut arriver, quand il se met à déraper puis à dériver, il peut même se prendre pour Dieu, lui-même, alors que il est très loin de se voir tel qu'il est, parce qu'il n'est que corruption au plus profond de lui. Alors, se prendre pour Dieu, c'est vraiment pas se voir et ne pas comprendre qui Dieu est non plus. Alors, on avait vu que dans les versets qu'on vient d'étudier, que Dieu avait créé, dans les versets 1 et 2, que Dieu avait créé une masse fluide qui était sombre et qui était totalement incapable d'entretenir la vie. C'était comme un désert, un immense vide. Et il fallait donc que le Seigneur crée les conditions idéales à l'apparition de la vie. Et quelles étaient-elles? La lumière. Parce que ça dit que la terre était informe et vide. Et l'ordre, il fallait que Dieu mette de l'ordre dans tout ce qu'il avait créé. Et aussi la vie. Et c'est ce qu'on vient de voir dans les différents versets qu'on a lus, que Dieu a graduellement introduit la vie. Un auteur qui disait, c'est comme en deux phases. La première phase, ça a été qu'il a créé l'arrière-plan. La deuxième phase, c'est qu'il a créé les acteurs qui étaient pour être dans ça. Alors, on verra ça dans les prochaines leçons, là, mais c'est vraiment l'idée. Alors, on avait vu aussi que les théories modernes qui donnent priorité à la science sur les Écritures, qu'il ne faut pas embarquer dans ça. Parce que si on embarque dans ça comme chrétien, on n'est pas sorti du bois, parce que là, on crée des difficultés que la Bible n'a pas. Et on s'égare à plus ou moins long terme. Alors, on avait vu que la science... Aujourd'hui, j'ai lu une phrase intéressante. Il y en a qui ont dit... Ils considèrent la science comme étant le 67e livre des Écritures. Voyez-vous? Si vous faites de la science quelque chose qui a autant d'autorité que la Bible elle-même, c'est sûr que tu t'en vas... dans le trouble jusqu'aux oreilles. Alors, on avait vu la théorie de l'intervalle, on ne rentrera pas là-dedans, la théorie des jours-époques. Donc, ils disent que, pourquoi j'ai appelé aujourd'hui le sermon, les 6 jours sont des jours de 24 heures, parce qu'eux autres, ils disent qu'une journée, ça peut être 50 000 ans, comme ça peut être des millions d'années. Mais on voit que quand on embarque dans ce raisonnement-là, on peut facilement se laisser séduire. On amène des problèmes théologiques insurmontable, énorme. Alors, il faut prendre conscience de cela et faire notre choix. Alors, les chrétiens doivent savoir, aujourd'hui aussi, moi, j'ai rencontré ça très souvent depuis que je suis chrétien. Quand même, depuis 1979, alors ça fait 36 ans. Des chrétiens que dès que quelqu'un parle de l'évolution, ils se sentent comme minus. Puis on dirait qu'ils ont peur d'affirmer leur croyance que Dieu a créé l'univers ex nihilo, que c'est pas l'affaire du Big Bang, que c'est pas l'affaire de l'évolution, on descend pas du singe. Je l'ai vu très souvent, je le vois encore, même aujourd'hui. Et ça me fait toujours de la peine de voir ça, parce que quand quelqu'un embarque là-dedans et qu'il se sent gêné de dire ce qu'il croit, croyant que leurs arguments sont tellement intéressants et tellement convaincants que quand tu crois la Bible, tu te sens comme un minus. Non. Il ne faut pas que ça soit comme ça, mes frères et sœurs. Il faut affirmer. Et la chose qu'il faut savoir, ça, cependant, c'est que je vous l'avais déjà dit, je le répète encore, c'est important qu'on le répète, c'est que moi, si quelqu'un vient à moi puis qu'il me dit l'évolution, puis avec, puis là, il m'amène toutes sortes de problèmes scientifiques, de toutes sortes de natures chimiques, nommez-les, j'avoue très humblement que je n'ai pas la compétence pour répondre à ça. Cependant, je sais qu'il existe des véritables chrétiens qui sont capables de répondre à tous les pseudo-problèmes que ces gens-là amènent à la doctrine du créationnisme. Ça, c'est très important de retenir ça. Si tu discutes avec quelqu'un, un scientifique ou quoi que ce soit, un jeune étudiant, puis tu ne sais pas quoi répondre, puis tu aimes autant pas t'affirmer parce que tu ne sais pas quoi répondre, ben, tu t'affirmes, puis tu dis, moi, je suis pas capable, mais je peux t'envoyer à un endroit où il y a des gens qui sont capables de répondre à tes affaires. Si on ne fait pas ça, ben, à ce moment-là, c'est comme si on vivait une vie, c'est comme si on avait honte de nos croyances qui sont basées sur la parole de Dieu. Et ça, c'est mortel. Si tu commences ça, tu n'es pas sorti du bois. Alors, la question à se poser, c'est quand on lit les passages comme on a lu ce matin, il y eut un premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le sixième jour, est-ce qu'on prend le mot jour à la lettre, voulant dire une journée ordinaire de 24 heures, ou si on embarque dans l'évolution avec leur jour, époque et toutes ces choses-là? Alors, la semaine dernière, quand on avait commencé à faire la première partie, on avait voulu, pour qu'on puisse apprécier la profondeur, la grandeur et la portée de toute la création du Seigneur, qu'on rentre un petit peu, je ne veux pas rentrer dans tous ces arguments-là ce matin, mais ça vaut vraiment la peine. Moi, personnellement, je ne sais pas, peut-être que ça vous ennuie d'entendre parler d'astronomie, d'entendre parler d'atomes. Ça peut arriver, je ne vous en voudrais pas pour ça. Mais plus on va rentrer là-dedans, plus on va comprendre l'intelligence infinie du Créateur, et plus on va apprécier toute la beauté qui règne dans l'univers. Le Seigneur lui-même, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Va vers le lys des champs, et tu vas te rendre compte qu'il est plus majestueux que toute la richesse de Salomon. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voyait dans la nature, dans une seule fleur? Il voyait que la gloire de Dieu se reflétait à l'intérieur de ces choses-là. C'est important de considérer qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Il nous dit que oui, dans une seule fleur, on peut facilement tomber dans l'adoration, parce que c'est parce qu'on ne l'observe pas assez attentivement, c'est parce qu'on ne sait pas comment, de quoi elle est composée. Et si on entrait dans toutes les niveaux de complexité de la fleur, bien sûr, on la regarde comme ça, à l'œil, c'est une affaire. La regarder avec un microscope qui grossit 10 fois, c'est une autre affaire. Avec un microscope qui grossit 1000 fois, c'est une autre affaire. Et on pourrait descendre jusqu'au niveau atomique. Et là, juste la fleur pourrait nous emmener à l'adoration. Qu'on se rentre un peu dans l'idée, la beauté et la profondeur de la création que Dieu nous a donnée. On va rentrer, on va reviser un petit peu ce qu'on avait parlé, mais rapidement. Alors, on avait parlé de la beauté que le Seigneur a mis dans sa création au niveau de l'infiniment grand. Mais je vais nommer juste la première, on les refera pas toutes, mais juste la première. L'astronomie moderne estime à 200 milliards d'étoiles, le nombre d'étoiles dans la seule galaxie appelée la Voie lactée. 200 milliards. Je vous rappelle qu'un milliard, c'est 1000 millions. Il y en a 200. Il y aurait 100 milliards de galaxies dans l'univers. Là, on commence à avoir une petite idée, puis je pense que les chiffres sont tellement grands qu'on s'y perd déjà même à la première mention. Alors, on avait dit aussi que si un ordinateur avait la capacité d'observer 10 millions d'étoiles à la seconde, il aurait besoin de plus de 63 millions d'années pour compter toutes les étoiles. 10 millions d'étoiles à la seconde, ça prendrait 63 millions d'années pour qu'il puisse toutes les observer. Ça, c'est une idée de l'infiniment grand. On pourrait allonger la liste. C'est intéressant, le psaume 147, versets 4 et 5, on parle du Seigneur, il dit « Il compte le nombre des étoiles. » Si je vous disais, donnez-moi donc le nombre des étoiles, là, même en chiffres, vous ne le savez même pas. Mais la Bible dit « Il », en parlant de Dieu, « Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » C'est une chose tellement merveilleuse. Si, quand on vient à un culte comme ça, notre esprit ne s'élève pas pour comprendre un aspect ou un autre du Seigneur. Dans la création, juste à parler un petit peu de l'infiniment grand, si notre esprit ne s'élève pas pour comprendre l'intelligence de Dieu, quand ça dit « son intelligence n'a point de limite », c'est extraordinaire et on parle d'une caractéristique de Dieu. On pourrait rentrer dans plein d'autres choses. Maintenant, on avait parlé aussi dans l'infiniment petit. Ceux qui étudient la chimie, la biologie, se rendent compte jusqu'à quel point le monde est complexe et le monde est... Je me souviens d'avoir déjà regardé un petit vidéo qui nous montrait une cellule, la complexité d'une seule cellule humaine. C'est extraordinairement complexe et rempli d'intelligence. Alors, le Seigneur se révèle dans sa grandeur, non seulement dans ce qui est infiniment grand, mais il se révèle aussi dans ce qui est infiniment petit. Juste, on va prendre une dans l'infiniment petit. Sur la pointe d'un stylo à billes, il y a tant d'atomes que si l'on prenait la comparaison qu'un atome représente un soldat et que cette armée-là marcherait en rang de 4 de large, ça prendrait 20 000 ans pour voir défiler toute l'armée. Et on parle des atomes sur le bout d'une pointe d'une aiguille. Ça nous donne-tu une idée? Et on est composé d'atomes, tout ce qui est devant nous, et d'atomes, alors on peut-tu s'imaginer combien il y en a dans l'univers? C'est inimaginable. Maintenant, l'énergie. Un autre aspect de la création de Dieu qui nous amène à adorer sa glorieuse personne, Einstein. Qui n'a jamais entendu parler d'Einstein? Nous dit qu'une seule goutte d'eau, si on réussissait à prendre toute l'énergie qui est en elle, suffirait pour soulever... Écoutez, 200 millions de tonnes d'acier à 1 000 au-dessus de la Terre. Une goutte d'eau. Donne-tu une idée? Maintenant, on avait parlé d'une autre façon dont Dieu, c'est dans le mystère. Le mystère qu'il y a. Alors, on ne rentrera pas dans... Mais ça vaudrait la peine que si quelqu'un voudrait le faire... rentrer dans un petit peu l'étude de l'astronomie, les quasars, les supernovas, les étoiles à neutrons, les trous noirs, Et si quelqu'un rentrerait là-dedans, plus tu rentres là-dedans, plus c'est fascinant. On appelle ça justement le mystère de la création. Parce que même les plus savants de la Terre, quand ils rentrent dans ces choses-là, sont tellement fascinés et ils comprennent qu'ils n'ont pas tout compris encore. Même si ça fait des centaines d'années que ça a été étudié sous toutes ses facettes par toutes sortes d'hommes plus intelligents les uns que les autres, ils n'ont rien compris encore à quel point tout ça est complexe et mystérieux. Alors, ça nous donne une idée de la grandeur du Seigneur. Et on va terminer par le vivant. Ça, c'est nous. Si je vous posais la question, combien il y a de cellules dans un être humain, vous me diriez quoi? Ben moi, je vous répondrais 75 milliards de cellules. 75 milliards de cellules. Cependant, il a été démontré que chaque cellule individuelle est plus sophistiquée que le plus puissant ordinateur de la Terre. Chaque cellule contient 200 000 milliards d'atomes. Regardez, 115 000 milliards de cellules dans chaque être humain, puis chaque cellule contient 200 000 milliards d'atomes. Alors, on décrit ça comme étant un micro-univers. C'est comme si l'univers qui existe en gros était réduit en petit et qu'à peu près l'équivalent de ce qui se passe en haut est dans l'infiniment petit. L'intelligence. Dès que quelqu'un... Moi, je me souviens, j'ai déjà étudié la biologie un petit peu. Et j'avais acheté un gros volume de biologie. Et je lisais les chapitres sur la cellule, justement. Sur le système nerveux. Parce qu'on sait qu'on a à peu près comme... Je pense, si je me souviens bien, c'est autour de 12 systèmes. Système nerveux, système digestif, système... etc. Mais quand quelqu'un étudie le système nerveux, la complexité de ça, là, c'est incroyablement complexe, incroyablement intelligent. Alors, tout cela, c'est l'œuvre de notre grand Dieu. Alors, dans le psaume 19, verset 2, il y a quelque chose qui nous est dit. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Ça, c'est dans l'infiniment grand. Mais la Bible nous dit aussi que toute la gloire de Dieu se manifeste à travers sa création. Donc, nous y compris. J'ai déjà lu qu'il y avait quelqu'un qui s'était déjà converti par l'étude attentive de la structure de l'œil. C'est tellement complexe, c'est tellement intelligent que quelqu'un dit « ça se peut pas que cette chose-là existe et qu'il n'y ait pas un concepteur, qu'il n'y ait pas de l'intelligence en arrière de tout cela. » Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on peut croire à ce que Dieu nous dit, qu'on pourrait dire la crédibilité des six jours de la création? Parce que Jean 17, verset 17, nous dit « Sanctifie-les par ta vérité. » Sanctifier, ça veut dire quoi? Nous mettre à part. Nous mettre à part par la vérité que Dieu nous enseigne. Et la deuxième partie du verset, « Ta parole est la vérité. » Alors, on a besoin de prêter foi. Alors, si quelqu'un dit, OK, tu me dis que c'est des jours de 24 heures, mais OK, montre-moi sur quoi tu te bases pour affirmer une telle chose. Et est-ce que c'est si important que ça, de croire que les six jours qui sont mentionnés dans Genèse 1 sont des jours de 24 heures? Comme on vous l'a dit la dernière fois, c'est un retentissant oui, c'est important. Parce que si tu ne le fais pas, ça a des conséquences sur ta théologie. Et la théologie, c'est l'ensemble des doctrines. Et ça, souvent, j'ai lu aussi dans des manuels ou sur Internet, tout est interrelié quand on parle de la théologie. Si tu fais une erreur sur Dieu, sur sa personne, sur ses attributs, ça va se répercuter dans toutes les autres doctrines. Si tu fais une erreur sur le salut en Jésus-Christ, et ça va se répercuter dans toutes les autres doctrines, tout se tient, tout est interrelié, tout est interdépendant. Tu ne peux pas faire une erreur en théologie sans que ça se répercute ailleurs. Alors, on avait vu pourquoi on peut dire avec certitude que ce sont des jours de 24 heures. Parce que dire le contraire, ça dégrade l'attribut de la bonté de Dieu. Et sur quoi on se base pour ça? Sur le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Alors, on a dit que chaque mot des Écritures est inspiré de Dieu. Dieu lui-même dit que chaque mot qu'il dit et l'ordre dans lequel ils ont été placés dans les Écritures vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. Donc, si tu dis que tu donnes foi à la théorie de l'évolution qui dit que avant l'apparition, que Adam et Ève ne sont pas une créature directe de Dieu, mais que c'est le produit d'une évolution de choses qui sont dans l'océan, qui ont fini par sortir, puis bon, ça a fini par faire un singe, et nous, et du singe, l'homme est venu. Ben, si vous croyez à ça, vous êtes en train de dire que la mort est entrée dans le monde avant la chute. Et la chute est décrite dans Genèse 3, elle n'est pas arrivée avant, elle est arrivée après. Et la preuve de ça, Genèse 3, versets 16 et 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, la mort n'existait pas avant. Si tu dis que tu prêtes foi à la théorie de l'évolution, tu es en train de dire que Dieu avait créé la mort avant la chute. C'est-tu un problème théologique grave ou léger, ça? Très grave. Donc, quand je dis que ça dégrade l'attribut de bonté de Dieu, je suis sûr que si on prenait l'ensemble des attributs de Dieu, la plupart des livres de théologie en donnent autour de 25, 25 attributs dont chacun est infini dans sa perfection, moi je suis convaincu que c'est pas juste la bonté de Dieu que tu dégrades. Tu dégrades la sainteté de Dieu. Tu dégrades la miséricorde de Dieu. Tu dégrades, et on pourrait, la sagesse de Dieu. Et tout le reste. Dans le fond, ta croyance a un impact sur ce que tu crois de Dieu lui-même. Deuxième chose, ça dégrade l'Évangile. Pourquoi je peux dire que ça dégrade l'Évangile? L'Évangile dit que le péché est entré par un homme, Adam, sa faute et la faute de sa femme. Et à quelque part, les Écritures parlent de cet Adam-là comme étant, à cause de lui, on héritait de nature pécheresse. Et les Écritures utilisent la même image de Adam pour parler de Christ en parlant de lui comme étant le second Adam. Alors, s'il n'y a pas eu d'Adam, le second Adam, l'image et la relation que tu essaies de faire entre les deux, elle ne fonctionne plus. Alors, quand tu dis que tu dégrades l'Évangile, tu dégrades l'Évangile. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22. Regardez, l'Écriture dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, » à qui on fait référence quand on dit « un homme » ? À Adam. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. À qui on fait référence, là? À Jésus-Christ. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, on est tombé à cause du premier Adam. On a hérité la nature pécheresse à cause de lui. Mais la parole nous dit qu'à cause du second Adam qui est Jésus-Christ, on est libéré de notre nature pécheresse, on hérite la nature, on hérite la vie éternelle, on hérite du pardon de nos péchés et bien d'autres choses encore. Alors, c'est sûr que si on croit à l'évolution, non seulement ça dégrade les attributs de Dieu, donc sa personne, ça dégrade aussi l'Évangile. Autre chose que ça produit, si on croit les théories de l'évolution, ça vient nous mettre en contre-courant avec l'histoire, avec l'ensemble des gens qui ont étudié les Écritures avant nous. Les pères de l'Église, les réformateurs, J'ai une petite brochure à la maison qui a été écrite par M. Joseph Piper, qui dirige un séminaire aux États-Unis, et il nous avait enseigné à Saint-Jérôme. Il a écrit une petite brochure là-dessus. Est-ce que les réformateurs croyaient que les jours de Genèse 1 représentaient des jours de 24 heures? Et là, il prend les réformateurs, un en arrière de l'autre. Ils croyaient tous là. Alors, il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de la tradition, mais la bonne tradition qui vient... Alors, Calvin, Luther et bien d'autres ont toujours interprété les jours de la création comme étant des jours de 24 heures. Maintenant, l'autre question qu'on peut se poser, pourquoi ça se doit d'être des jours de 24 heures? On avait vu, mais c'est sûr que je ne voudrais pas vous donner des cours d'hébreu ce matin. Premièrement, je ne suis pas compétent pour les donner. Et deuxièmement, il y en a qui l'ont fait, qui l'ont la compétence pour étudier la chose. Quand on utilise un adjectif comme premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, à coller au mot « yom » ou le mot « jour », dans les Écritures, ça veut toujours dire le mot... Alors, l'adjectif... L'usage d'un adjectif utilisé avec le mot hébreu veut dire « jour » dans le sens de 24 heures. Et un des arguments les plus forts, vous connaissez le décalogue, on est en train d'étudier en bas, là. Exode 20, verset 11. Et là, on parle du jour du sabbat. Et ça dit, « Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, il s'est reposé le septième jour. » Est-ce que tu es en train de dire que dans la première partie de Exode 20, on parle de jour-époque, puis que là, on parle du jour du Seigneur et que là, c'est un jour de 24 heures, dans la même phrase? Non. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Il parle de quel jour, là? Jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un jour de 24 heures aujourd'hui ou c'est un jour époque de 50 000, 100 000, 1 million d'années? Il parle d'un jour de 24 heures. Et je vous avais mentionné la semaine dernière qu'il y a des gens qui ont contacté des érudits, des savants de la langue hébreu de plusieurs universités, Oxford, Cambridge, Londres, Harvard, Columbia, Toronto et McGill et Manitoba. Et ils ont dit, considérez-vous que le mot hébreu « yom » tel qu'il est utilisé, accompagné d'un adjectif numéral, devrait être traduit comme un jour de 24 heures? La majorité ont répondu, il devrait être traduit comme un jour de 24 heures. Et là, on ne parle pas de deux de pique, là. On ne parle pas de l'opinion de Marcel, parce que moi, l'hébreu, j'avoue que ce n'est pas mon sac de thé. Je n'ai pas les compétences pour être capable de juger ça. Mais si des personnes qui sont calées dans la langue hébreu disent « ça devrait être traduit par des 24 heures », pourquoi moi, je dirais pas comme eux? Et il y a beaucoup de grands théologiens, comment je vous nommerai des noms, là, ça ne vous impressionnera pas, mais je peux vous dire une affaire. Edward Young, c'est un grand théologien. Il a écrit sur la Genèse, ainsi que d'autres. Je pourrais vous nommer les noms, mais je pense que ça ne vous donnera pas grand-chose. C'est des personnes qui ont étudié les textes en profondeur, avec l'hébreu, avec la connaissance suffisante. Et eux, ils arrivent tous à la même conclusion. On parle de jours de 24 heures. Parce que ça crée des problèmes sérieux si on dit que ça veut dire plus que 24 heures. Un exemple. Il y a deux généalogies qui sont décrites dans le livre de la Genèse. Le chapitre 9 et le chapitre 11 parlent de généalogie. Alors, si la théorie de l'évolution est correcte et que les hommes existent depuis des millions d'années, il s'ensuivrait qu'il faudrait qu'il y aurait un intervalle de 50 000 années entre chaque nom de ces deux chapitres. Oh, maintenant, il faut que tu fasses ton choix, là. Y a-tu, quand tu dis « un tel engendra son fils », ça veut-tu dire qu'il y a eu 50 000 ans avant que... ça se produise, parce que si c'est des millions d'années, il faut absolument que tu mettes un intervalle de 50 000 ans entre chaque nom qu'il y a dans les généalogies de Genèse 9 et de Genèse 11. Et, autre argument massu, c'est que si tu selon les spécialistes hébreux, si tu étudies l'usage du mot « jour » comparé à d'autres écritures dans l'ensemble de la Bible? Est-ce que tu es autorisé à dire que le mot « yom » peut se traduire par autre chose que « jour de 24 heures » Alors, le mot « yom » est utilisé au singulier ou au pluriel plus de 410 fois en dehors du livre de la Genèse, et il signifie toujours un jour de 24 heures. Pourquoi que ça serait différent en Genèse 1? Parce qu'ils veulent rentrer leur théorie que ce n'est pas Dieu qui a créé, que ça s'est fait tout seul, et en introduisant ça dans la tête des gens, c'est que tu te dis, bon, ça s'est fait tout seul, il n'existe pas de Dieu. Puis s'il n'existe pas de Dieu, je n'ai pas de compte à y rendre. Puis tu ne veux pas croire non plus que tu vas être jugé, que tu vas être plongé dans le lac. Alors, c'est rassurant. Tu peux dire, ah, ben là, on peut pécher à tour de bras, puis je n'ai pas de compte à rendre à personne. C'est peut-être rassurant pour le moment. Mais un jour, ils vont se réveiller, mais ça sera pas très rassurant. Maintenant, on parle du troisième point, on était rendu là. Ça fait une longue révision, mais ça ne fait rien. On va en finir aujourd'hui. La conformité. Si une doctrine est vraie, elle s'harmonise avec l'ensemble de toutes les autres doctrines qui sont dans les Écritures. Sinon, vous êtes sûr que vous avez une fausse doctrine. Alors, on va regarder la conformité de l'enseignement du jour de 24 heures avec l'enseignement des Écritures. On va commencer par une, la réalité historique d'Adam. Si tu dis que c'est l'évolution, est-ce que tu es en train de dire que historiquement, le vrai Adam, la personne qui a été créée directement par Dieu lui-même, tu es en train de dire que c'est pas une réalité, ça s'est fait... Alors, la généalogie du livre de Luc remonte jusqu'à Adam. Si vous allez dans Luc 3, au verset 38, là, il commence, et contrairement à la généalogie de Matthieu, la généalogie de Luc se rend jusqu'à Adam. Et alors, on a dit que les mots des Écritures, soufflés par Dieu, est-ce que Dieu contraint un mensonge dans Luc 33, 38? Parce qu'il dit... Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc, la réalité historique d'Adam concorde avec l'affirmation, la doctrine que les jours sont des jours de 24 heures. Ça concorde aussi avec la doctrine des choses de la fin et de la restauration. Pourquoi Dieu voudrait-il restaurer quelque chose qu'il a créé, qui est déjà correct? Alors, là, on va aller voir plusieurs versets. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 13. Et là, on parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause desquels les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et de nouvelles terres d'où la justice habitera. Voyez-vous, ça vient aussi heurter la doctrine de la restauration et la doctrine de qu'on appelle l'eschatologie, la chose de la fin. Alors, quand on fait une erreur quelque part, on l'a dit tantôt, ça se répercute ailleurs. Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. » Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À vous hâte à ce jour-là? Plus de larmes, plus de deuil, plus de cri, plus de douleur. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servait à la guérison des nations. Voyez-vous, Romains 8, on parle de restauration, Romains 8, versets 20 et 21. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera aussi affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Pourquoi on aurait besoin de restaurer quelque chose qui est correct? C'est la chute qui a emmené non seulement le problème du péché de l'homme, mais qui a entraîné à sa suite tout ce qui était, tout ce qui fonctionne pas dans la création. Et Acte 3, 21, ça dit, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Et on pourrait allonger la liste. Alors, quand tu introduis l'évolution et tu la crois, tu viens non seulement bousculer la doctrine du salut, la doctrine de Dieu lui-même, la doctrine de la restauration, de l'eschatologie. Maintenant, est-ce que ça dérange juste ça? Non, ça dérange d'autres choses. Les enseignements de Paul qui parle de Christ, on fait passer Christ avant Paul. Christ lui-même, lorsqu'il parle de la Genèse, ne considère pas que la Genèse est une histoire à dormir debout. Il dit, dans le chapitre 24, les versets 38 et 39, donc on peut dire très facilement qu'ici, il parle de l'historicité de la Genèse. Et c'est Christ qui parle. Si tu dis que ce n'est pas vrai, tu es en train de faire de Christ un menteur. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, autant on ne croyait pas, Noé, au moment qu'il avertissait les gens, de 8, tout le reste ont été... Et aujourd'hui, c'est drôle de voir les théologiens libéraux, comment ils essayent d'expliquer c'était un déluge local, c'était pas un véritable déluge qui a monté plus haut que les plus hautes montagnes. Quand on commence à douter de la parole, je vous dis une chose, on répète la même erreur tout au long. Matthieu 19, verset 4. Ici, c'est encore Jésus qui parle. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? » Et là, maintenant, on va voir ce que Paul dit du même sujet. 1 Timothée, chapitre 2, verset 13 et 14. Voyez-vous, Paul ici, est-ce qu'il doute de l'historicité de Adam, la personne d'Adam créée directement par Dieu? Parce qu'il dit, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. » Si on veut avoir une herméneutique qui est conséquente, une herméneutique, c'est une façon d'interpréter. L'herméneutique, c'est l'interprétation, les règles qu'on se doit de donner aux Écritures, si on veut la comprendre telle que Dieu veut qu'on la comprenne. Parce que si on passe par-dessus des règles, c'est sûr qu'à quelque part, on va partir dans toutes sortes de directions, on va déraper, ça va être terrible. Mais si on respecte les règles tout au long, là, à ce moment-là, on va avoir ce qu'on appelle une herméneutique ou une compréhension de la Bible qui va être conséquente. On a vu tantôt que si tu dis que Adam n'a pas été créé par Dieu lui-même, premier homme, il est en train de dire que la mort est entrée. Alors, quand on parle de conséquent, là, c'est que nous, on dit que la mort est entrée par Adam, et pas rentrée avant Adam. Alors, si on va avoir une herméneutique conséquente, on se doit de donner foi à l'historicité du livre de la Genèse et de croire au créationnisme qui affirme que la Terre est jeune, en bas de 10 000 ans, et que les jours qui sont décrits dans Genèse 1 sont des jours de 24 heures. Alors, on se doit de faire attention à ne pas faire de la science moderne le 67e livre des Écritures qui a préséance ou priorité sur les autres et qui... Autrement dit, c'est comme si la science devenait la lumière des Écritures plutôt que de l'inverse. Et croyez-moi, il y a beaucoup de monde d'aujourd'hui, dans les gens qui sont chrétiens, est-ce que c'est qu'ils ont été égarés? Est-ce que ça démontre qu'ils ne sont pas sauvés? Je n'irai pas jusque-là. Mais ce que je peux dire, c'est que si tu embarques dans une telle compréhension des Écritures dès Genèse 1, c'est sûr que tu vas traîner avec toi une multitude de problèmes théologiques qui sont absolument insolubles et qui amènent des contradictions. On parle d'une herméneutique conséquence, ça veut dire que tout se tient et que si tu fais une erreur quelque part, ça va avoir des conséquences dans toute la Bible complète. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire de l'étude de ce qu'on a fait ce matin? J'en ai retenu trois, mais sans doute qu'il pourrait en avoir beaucoup plus que ça. La première... Je dirais, émerveillons-nous devant la grandeur et la complexité de l'univers et de la vie créée par Dieu. Là, il faudrait rentrer dans les détails si on voudrait vraiment donner un sens à la phrase. S'émerveiller devant la grandeur, c'est alors qu'on parlait du microscope qui voyait 10 millions d'étoiles à la seconde, ça y prendrait 56 millions d'années avant de les compter toutes. Ça, c'est ceux qui connaissent actuellement. Plus on comprend la complexité, plus on comprend la grandeur, à la fois de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, plus on est émerveillé. Et ça nous amène à l'adoration. Si, devant des faits pareils, votre esprit n'est pas « Oh, Seigneur, comme tu dois être grand, comme ton intelligence est profonde, et au-delà de ma capacité de compréhension. » Ça nous amène là, on commence à comprendre qui notre Dieu est. Et on commence à comprendre qui on est aussi. Parce que si on ne croit pas Dieu, on va croire d'autres personnes. Et on va croire les hommes. Et si on croit les hommes, bonne chance. Alors, ces merveilles créationnelles se révèlent abondamment dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, dans l'énergie de l'univers et dans tout son mystère. On a parlé tout à l'heure des quasars, des trous noirs et toutes ces choses-là. Plus quelqu'un étudierait ça, plus il comprendrait la grandeur infinie du Seigneur, son intelligence infinie, sa bonté, sa sagesse et bien d'autres choses encore. Deuxième application. Soyons conscients des choix que nous devons faire et leurs conséquences, dès le premier chapitre de la Genèse. Si on donne priorité à la Bible sur la science, on est bien parti. Si on donne priorité à la science sur la Bible, on va déraper, croyez-moi. Alors, les conséquences, les choix qu'on fait, c'est des choix qui sont basés, non pas sur des arguments scientifiques, sur la foi en la parole de Dieu. Si on dit que ça, c'est la parole de Dieu, mais quand il dit quelque chose, Dieu ne ment jamais. Il faut que je croie ce qu'il dit, et non pas ce que la science m'avance. Il faut aussi qu'on tienne compte de la compréhension historique que les chrétiens ont eue sur le même chapitre. On ne vient pas au monde chrétien dans le vacuum, dans le vide. Il y a du monde qui ont étudié. Hey, vous imaginez-vous combien il a été étudié, ce livre-là? Des millions de personnes, des millions de théologiens. Alors, est-ce qu'on peut dire, ah, ben maintenant, nous, on est du 20e, on est du 21e, on est tellement intelligents que tous ces gens-là, c'était comme, oh, ils n'ont rien compris, les autres. Mais nous, c'est un peu l'attitude que la science moderne veut se donner. C'est comme ces gens-là, c'est comme des ignorants, ils ne comprenaient pas toute la science moderne, donc ils étaient comme des... Et c'est là qu'ils cherchent à nous faire passer cette idée-là. Vous êtes des arriérés, et vous vous attachez à des fables et à... Croyez au Père Noël, et des choses semblables. Ils ne nous le disent pas des fois avec ces mots-là, mais leur attitude semble vouloir nous montrer que nous, on n'est pas bons, qu'on n'a rien compris. Alors que la vérité, c'est que c'est l'inverse. Leur science n'est pas toujours de la science. Elle est basée, eux aussi, sur la foi, même s'ils nient ça. Ils vont dire, ah, la science, c'est la science. La science est la science en autant que tu la définis correctement dès le départ. Alors, la compréhension historique des chrétiens sur la Genèse et les implications théologiques et les graves erreurs amenées par l'évolution. Si tu ne fais pas tes choix conscients, un choix conscient, c'est qu'un choix, tu vois les deux choix, puis tu dis « Ah, moi, je crois ça. » Alors là, si tu fais le bon choix, le reste va avoir des conséquences à tes choix. Troisième application, tenons compte de l'harmonie nécessaire du créationnisme avec les autres doctrines des Écritures. On a parlé de tout ça est interrelié, tout ça est interdépendant. Alors, faut se rendre compte qu'il y a une harmonie dans les Écritures et qu'on ne peut pas détruire l'harmonie sans créer des problèmes vraiment insolubles et insurmontables. Faut tenir compte aussi des enseignements de Jésus, des enseignements de Paul, ainsi que la possibilité qu'on se laisse égarer si on continue à croire à des fausses interprétations. Que notre grand Dieu soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.